Alors les années passent, mais pas tout à fait aussi vite qu'Étienne l'affirme, puisque le groupe de jeunes adultes a dû s'arrêter il y a 5-6 ans, pas tout à fait, il y a 2 décennies. Mais en tout cas, nous sommes heureux qu'il puisse bientôt reprendre. Et si vous êtes donc, si vous considérez comme un jeune adulte, comme Étienne l'a dit, je vous invite à consulter le lien qui est indiqué sur le bulletin pour remplir un sondage qui nous permettra de, et notamment Paul Bourdois qui sera le responsable de ce groupe, de prendre connaissance des souhaits des uns et des autres pour mieux préparer cette nouvelle rencontre. Je voudrais souhaiter la bienvenue m'associer à la bienvenue déjà adressée par Étienne, mais depuis le début du culte, notre sœur Muir, Raland Mondreni, nous a rejoint, elle est dans la salle du bas et nous sommes ravis de la revoir. Et puis je suis heureux également d'accueillir des amis de longue date de notre famille, Sylvia et Beverly, qui, en tout cas Sylvia est là, et qui sont des amis qui viennent des États-Unis, des amis de notre famille qui sont des nôtres ce matin. Alors si vous voulez bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles à l'évangile de Marc, au chapitre 11. Marc, chapitre 11, pardon, chapitre 10, je vais y arriver, mais c'est la fin du chapitre 10, verset 46, et c'est à la page 1131 des Bibles bleues. Donc Marc, chapitre 10, verset 46. Page 1131 dans les Bibles bleues qui sont sur les bancs. Et nous lirons donc la fin du chapitre 10, les versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Poursuivons donc notre série dans l'évangile de Marc. Si vous habitez à Paris, il vous est sans doute arrivé au moins une fois ou l'autre de croiser une personne célèbre dans la rue. Ça arrive ici de temps en temps. Et peut-être même que vous avez un jour, qui sait, demandé un autographe ou pris un selfie. Lorsque notre mère, Madame Dati, ancien ministre, assez connue, est venue au culte il y a quelques années, je sais que quelques-uns ont sorti leur téléphone portable. Mais évidemment, entre croiser furtivement quelqu'un et le ou la rencontrer vraiment, il y a une grande différence. Au moment où se situe le récit lu il y a un instant, Jésus est célèbre dans tout le pays d'Israël. On l'oublie parfois, Jésus est devenu célèbre dans son pays. Et ce texte nous relate l'histoire d'un homme plus que simple, un homme tout en bas de l'échelle sociale, qui va rencontrer celui qui sera bientôt accueilli à Jérusalem comme Messie, par une foule de pèlerins. Ce petit épisode nous présente le dernier miracle qui nous soit rapporté dans l'évangile de Marc, sans compter l'annonce de la résurrection de Jésus au début du chapitre 16 de Marc. On arrive donc peu à peu près de la fin du récit de Marc. Jésus est en route vers Jérusalem et c'est là que très bientôt il sera crucifié. En fait, le début du chapitre 11 nous amène au début de la semaine de la crucifixion. Donc là, on est vraiment dans notre récit, dans les tout derniers jours du ministère public, du ministère terrestre, comme on le dit, de Jésus. Marc a encore quand même beaucoup de choses à raconter. Cette dernière semaine, il va prendre le temps, parce qu'elle est tellement importante pour la raconter. Et on pourrait presque s'étonner qu'il ait inclus ce tout petit épisode On pourrait presque dire une guérison de plus. Et puis, il y a déjà eu la guérison d'un aveugle il y a très peu de temps. Un élément de réponse est peut-être que dans ce miracle, on a à la fois un acte de compassion de Jésus qui guérit un homme aveugle, mais on a aussi l'engagement d'un homme qui se met à suivre Jésus. L'homme a été délivré pour devenir disciple. Délivré pour devenir disciple. Et je vous soumets que nous avons là, en quelque sorte, un modèle de rencontre avec Jésus. Voilà ce que Dieu nous appelle tous à vivre, délivré pour devenir disciple. Dans ce récit, nous assistons à deux appels et une rencontre. Et ce seront là, en toute logique, nos trois temps de réflexion. On va commencer par le premier appel dont il est question dans le texte, c'est l'appel de Bartimée à Jésus. L'appel de Bartimée à Jésus. Savez-vous quelle est la ville la plus basse du monde en termes de dénivellation ? Ce n'est pas Bruxelles ou Amsterdam, c'est Jéricho, cette petite ville près de la mer Morte, déjà célèbre dans l'Ancien Testament, la conquête de Jéricho par Josué, et qui est citée à nouveau ici. Une ville d'ailleurs qui existe encore aujourd'hui. À l'époque de Jésus, Jéricho se trouvait sur la route la plus souvent empruntée pour rallier Jérusalem depuis la région de Galilée. Ce n'était pas le chemin le plus direct, mais c'est le chemin qu'on empruntait quand on voulait éviter la Samarie, qui était un territoire presque ennemi. Jésus donc venait de Galilée, région où il a vécu la plus grande partie de son ministère, et il a suivi ce chemin traditionnel pour aller à Jérusalem. Et Jésus se trouve au milieu de nombreux pèlerins galiléens qui montent à la capitale pour la grande fête de la Pâque. Parmi ces pèlerins, certains étaient devenus ses disciples, d'autres sans doute pas, mais il est au milieu de cette foule. Et c'est apparemment en sortant de la ville de Jéricho, verset 46, que Jésus et ses disciples croisent un certain Bartimée. Fils de Timée, nous dit le texte. Alors, ça c'était assez évident pour les lecteurs juifs du texte. Hein. Bar, ça veut dire en fait fils en araméen, la langue la plus courante à l'époque de Jésus. Donc c'est comme Jackson, c'est le fils de Jack, hein. C'est le même principe. En français, on n'a pas vraiment l'équivalent. Mais Marc précise cela pour les lecteurs non-juifs, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Donc, Bartimée. Et c'est un détail intéressant, c'est le simple fait que Bartimée soit nommé. Il est très rare dans les récits des miracles des évangiles que la personne guérie soit nommée. Ça n'avait pas grand intérêt de donner leur nom. Mais ici, Marc nous donne son nom. Et d'après plusieurs spécialistes, l'explication la plus convaincante est que Bartimée était connu par les premiers lecteurs de Marc. Il était devenu disciple de Jésus, comme la fin du texte le montre, et dans les premières églises chrétiennes, on le connaissait, Bartimée. C'est pour ça que Marc précise que c'est bien de lui qu'il s'agit. Mais revenons à la scène. Marc nous la décrit en détail. Jésus sort de la ville, verset 46, avec ses disciples et avec une assez grande foule. Certain Bartimée, donc, est assis en train de mendier. Alors, pour nous qui habitons à Paris, ce qu'a de la plupart d'entre nous à Paris ou dans la région, ce n'est pas difficile malheureusement d'imaginer cette scène. Quelqu'un qui mendie au milieu d'une foule, on voit ça tout le temps, jusqu'à parfois des dizaines de fois par jour. Et c'est un peu ce genre de scène qu'il faut imaginer ici. Une grande foule, des gens qui passent et puis un homme assis par terre, peut-être avec un petit récipient pour collecter les pièces. Un homme aveugle donc. Et Bartimée entend dire que Jésus de Nazareth passe par là. C'est comme ça que Jésus était connu. Et verset 47, il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et dans cet appel, deux choses en particulier doivent retenir notre attention. La première, c'est le caractère insistant des appels de Bartimée. C'est un thème qu'on retrouve souvent dans les évangiles. Jésus guérit des hommes et des femmes qui démontrent leur foi, qui démontrent leur confiance en lui, en ne se laissant pas arrêter par les obstacles naturels, en faisant tout pour rencontrer Jésus. C'est le cas du paralytique qu'on fait descendre par un toit. C'est le cas de Zachée qui monte sur un arbre. C'est le cas de la femme syrophénicienne qui insiste et qui supplie Jésus, qui semble pourtant la repousser dans un premier temps. Une foi déterminée. Les gens peuvent parfois faire preuve d'une grande détermination pour des choses pas très importantes. il y a quelques années, lorsque l'un des films de la série Star Wars est sorti en France un jour avant sa sortie aux États-Unis, il y a des gens qui ont pris l'avion des États-Unis et qui sont venus à Paris pour pouvoir voir le film avant leurs amis. Si nous prenons conscience que Jésus nous offre ce dont nous avons besoin par-dessus tout, serons-nous prêts à une telle détermination? Et pour nous qui sommes déjà ses disciples, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, avons-nous le même empressement, la même détermination à chercher sa présence, sa volonté face à nos choix de vie, face à nos décisions, face à nos épreuves, face à nos projets? La foi que Jésus nous invite à placer en lui est une foi opiniâtre, qui ne se décourage pas, qui s'accroche, un peu comme Jacob dans l'Ancien Testament qui, dans ce récit si mystérieux, lutte avec Dieu, nous dit le texte, et lui dit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Genèse 32, 27. Bartimée a compris cela. Verset 48, « Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de Dieu, aie pitié de moi. » On essaie d'imaginer la scène, les gens qui disent « c'est bon, arrête. Oh, fils de Dieu, aie pitié de moi. » Il continue encore plus fort. Une foi déterminée qui ne lâche pas le morceau. Maintenant, deuxième chose que j'aimerais souligner dans l'appel lancé par Bartimée, c'est la manière dont il désigne Jésus. La manière dont il désigne Jésus. Fils de David. Et c'est d'autant plus frappant que cette expression n'est jamais utilisée ailleurs dans cet évangile de Marc. Globalement, Jésus était plutôt connu sous le nom de Jésus de Nazareth, comme le début du verset 47 le montre. Mais Bartimée l'appelle « fils de David ». Et cette expression n'est pas anodine, elle renvoie à l'Ancien Testament, au descendant promis du roi David, ce roi annoncé par les prophètes, qui régnerait non seulement sur Israël, mais sur le monde entier, le Messie. Un roi qui viendrait libérer son peuple et régner pour toujours, nous disent les prophètes. Or, le personnage de ce roi semble se confondre parfois dans certains psaumes ou chez le prophète Ésaïe, par exemple, avec Dieu lui-même. Il y a un côté assez mystérieux quand on lit certains textes de l'Ancien Testament. Le fils de David, c'est donc le Messie, le roi de Dieu, voire le roi Dieu, un roi qui règne avec une autorité divine. Alors je ne dis pas que Bartimée était conscient de tout cela quand il a dit « fils de David », mais quand même l'expression n'est pas anodine. Bartimée appelle au secours celui qu'il voit comme un sauveur, mais aussi un seigneur, un roi, un maître, quelqu'un qui a autorité sur lui. L'appel que Jésus nous lance n'inclut pas seulement de recevoir auprès de lui le pardon de Dieu. Il implique aussi de reconnaître l'autorité de Jésus en tant que Seigneur. Et Seigneur, comme il m'arrive de le rappeler de temps en temps, ça veut dire en gros propriétaire de ma vie. Propriétaire de ma vie. Dire que Jésus est mon Seigneur, c'est dire que je lui appartiens. C'est très fort. Et Jésus nous est présenté dans la Bible comme le Seigneur du monde, celui à qui Dieu a confié toute autorité légitime. Alors à plus forte raison, s'il est le Seigneur du monde, il est le Seigneur de chacun de ses disciples. Et croire en lui d'une foi authentique, c'est s'engager à le suivre, c'est lui obéir, délivrer pour devenir disciple. Et il est intéressant de noter que dans la scène suivante, Jésus va être accompagné triomphalement à Jérusalem par une foule de pèlerins qui l'acclamera comme roi. Mais Jésus est un roi qui ne va pas à Jérusalem pour y prendre le pouvoir, mais pour y mourir. Et le chemin qui nous appelle à suivre n'est pas un chemin triomphaliste, mais un chemin à contre-courant, un chemin qui coûte. Et ça nous amène à notre deuxième point, l'appel de Jésus à Bartimée. L'une des choses qui me bouleverse quand je lis les évangiles, c'est de prendre et reprendre conscience de ce que Jésus révèle pleinement et parfaitement Dieu. « Celui qui m'a vu a vu le Père », dira-t-il à son disciple Philippe, comme nous le rapporte l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 8, ou même « Le Père et moi, nous sommes un », toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30. Et ça implique que quand nous voyons Jésus parler et agir, c'est Dieu qui parle et qui agit pleinement en lui. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Colossiens, c'est en lui, Jésus, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. C'est évidemment mystérieux, mais c'est la vérité qui nous est révélée par Dieu lui-même. Et ça me bouleverse parce qu'au verset 49, quand Jésus, entendant l'appel de Bartimée, s'arrête, c'est Dieu qui s'arrête. Il s'arrête et il écoute le cri lancé par un homme, Bartimée. Et Jésus ne se contente pas de s'arrêter un instant. Il dit toujours au verset 49, appelez-le. Jésus est en route vers Jérusalem. Il est suivi par une foule qui s'apprête à l'acclamer comme Messie, mais il s'arrête pour rencontrer un homme aveugle qui l'appelle à l'aide. Et une fois de plus, il se rend disponible. Et c'est l'un des attributs les plus saisissants du Dieu de la Bible. Il est disponible. Jamais il ne se détourne de celui qui vient à lui. Et soit dit en passant, il nous appelle, nous ses disciples, à être des hommes et des femmes disponibles. Il est frappant de voir Jésus ici, prêt à arrêter le temps pour une rencontre. Un exemple à méditer pour nous et moi le premier qui sommes si souvent emportés par l'activisme et qui oublions de prendre le temps pour la rencontre avec l'autre. Rencontre toute simple, naturelle. Et quoi de mieux qu'une rencontre comme celle-ci, après le culte, pour prendre le temps de ces échanges. Comment s'est passée ta semaine? Est-ce que je peux me rendre utile? Comment est-ce que je peux prier pour toi? Dieu est un Dieu profondément relationnel. C'est dans sa nature même, en Dieu lui-même, il y a de toute éternité une vie relationnelle entre Père, Fils et Saint-Esprit. Et par conséquent, Dieu n'a jamais eu besoin d'une relation avec nous. Ça n'a jamais été une question de besoin. En lui-même, il a toute la vie relationnelle dont qu'il pourrait souhaiter, si j'ose dire. Dieu n'a jamais eu besoin d'une relation avec nous. Mais il a choisi d'entrer en relation avec nous. Il aime nous rencontrer. Et il n'y a rien dont nous avons plus besoin que cette rencontre. Et on note que même si Bartimée a appelé Jésus, fils de David, c'est Jésus qui prend l'initiative de la rencontre. L'appel vient de loin, il vient au-delà de la foule qui entoure Jésus, mais il fait arrêter tout le monde. Et il invite Bartimée à s'approcher. Et la rencontre va avoir lieu. Et là, j'aimerais attirer notre attention sur le rôle ambigu de la foule autour de Jésus. D'abord, ils se comportent un peu comme des gardes du corps ou services de presse ou que sais-je. Verset 48, beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Oh, c'est bon, c'est bon. Peut-être qu'ils considèrent un peu que Jésus leur appartient. On a vu ça dans les chapitres précédents. Il ne faut pas exagérer, hein, c'est eux les disciples. Et ça fait un moment qu'ils suivent Jésus. Puis Jésus a mieux à faire que de s'arrêter pour un mendiant au bord de la route. À ce rythme-là, les gars, on n'a pas fini. Je vous rappelle qu'on doit aller à Jérusalem. Pourtant, qu'est-ce que Jésus vient de dire à la fin de l'extrait précédent? Verset 45. Le Fils de l'homme est venu pour être servi. Non, pardon. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Verset 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Mais la foule et les disciples ne voient pas le rapport et ils se posent en obstacle à la rencontre avec Jésus. Et combien de fois, je le dis avec tristesse, nous chrétiens, y compris moi, Matthieu, nous avons été des obstacles à une rencontre avec Jésus. Mais si la foule a mal commencé, elle a bien terminé, il faut le reconnaître. Une fois que Jésus, lui, a pris l'initiative de la rencontre, ils ont cette magnifique parole d'encouragement. Verset 49, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » D'abord, ils sont un obstacle, puis ils sont un encouragement à la rencontre. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et il me semble qu'on ne peut pas éviter de faire un lien avec le rôle contrasté que peut jouer la communauté chrétienne. Nous pouvons être un obstacle à la rencontre, comme nous pouvons être un encouragement. Prions que le Seigneur nous aide à être de ceux qui encouragent. Que l'église de la rue de Sèvres en particulier soit connue comme une communauté qui encourage les gens à rencontrer Jésus, qui ne met pas d'obstacles inutiles et dérisoires. Par exemple, il faudrait utiliser tel jargon, ou il faut avoir tel type de tenue vestimentaire, ou il faut être capable de trouver tout de suite le texte biblique dans la Bible. Soit dit en passant, si nous aimons depuis quelque temps donner la page, bien sûr, ce n'est pas pour la grande majorité des habitués qui sait bien trouver le texte sans avoir besoin d'une page, d'un numéro de page, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas la Bible et dont nous espérons que dimanche après dimanche, il y en a qui sont présents. Soyons de ceux qui accueillons tout en indiquant le chemin, non pas vers nous, mais vers Jésus. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mais Jésus n'en reste pas à l'appel, la rencontre va avoir lieu. Et nous conclurons en considérant brièvement les trois derniers versets du texte. Une rencontre qui change la vie. Une fois de plus, la scène est touchante. En entendant que Jésus l'appelle, verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Nul doute que les détails sont authentiques, mais ils sont également symboliques, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est pour ça, je pense, que Marc prend le soin de bien les relever. L'aveugle jette son manteau. La seule chose qui lui appartient, en gros, c'est un mendiant. Son manteau, c'est la seule chose qui est à lui. Il jette son manteau pour suivre Jésus. Au début de ce chapitre, on a vu il y a quelques semaines un homme qui veut faire le bien, mais qui ne peut pas consentir à ce que lui demande Jésus. Abandonner ses richesses pour le suivre. Ici, l'aveugle, qui n'a rien, jette la seule chose qu'il a, son manteau, pour suivre Jésus. Mais la question que Jésus lui pose est également poignante. Verset 51, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et on ne le remarque pas forcément à première lecture, mais cette question est exactement celle que Jésus a posée à Jacques et Jean au verset 36 du même chapitre. Texte traité par Paul la semaine dernière, verset 36, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Jacques et Jean viennent avec une demande et Jésus leur pose cette question, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et là, le contraste est frappant. Jacques et Jean voulaient avoir une place d'honneur aux côtés de Jésus. Quand ils seraient reconnus comme rois, ils veulent être à sa droite et à sa gauche. L'homme aveugle, lui, il veut retrouver la vue. Alors cette réponse, elle paraît peut-être évidente. Un homme aveugle qui vient vers Jésus, Jésus qui a déjà accompli bien des guérisons, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» On aurait presque envie de dire, mais n'est-ce pas évident ? Est-ce si évident que cela ? Après tout, cet homme a sans doute tout juste de quoi se nourrir grâce à la mendicité. On aurait pu imaginer qu'il demande de l'argent à Jésus et à ses disciples, ce ne serait pas ahurissant. Il a l'attention d'une foule entière, là, ça peut être une aubaine. Surtout que Jésus n'hésite pas à demander aux gens de donner aux pauvres, on l'a vu. Ou bien on aurait pu imaginer une requête semblable à celle de Jacques et Jean, une place d'honneur, peut-être en plus de retrouver la vue, place d'honneur, une situation enviable, une belle revanche pour un cassé de la vie comme lui. Mais l'homme s'en tient à une requête beaucoup plus fondamentale pour lui. Mon maître, que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue. On note que l'homme ne fait pas ici, dans l'excès de piété, à ne pas prendre à la lettre, mais il ne fait pas dans l'excès de piété. Il ne demande pas que Jésus lui donne de grandir en foi, en espérance et en amour. Le temps pour cela viendra. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander cela. Le temps pour cela viendra. Mais là, il voit en Jésus celui qui peut répondre à ce qu'il voit, ce qu'il vit comme son besoin le plus fondamental. Jésus est celui qui peut répondre à ce qu'il vit comme son besoin le plus fondamental. Alors vous me direz, mais son besoin le plus fondamental, n'est-ce pas le besoin de Jésus lui-même ? Eh bien justement, l'aveugle semble avoir compris cela. Jésus est son maître, verset 51. Il est le fils de David, il vaut la peine de tout abandonner pour lui. Et l'aveugle, ayant retrouvé la vue, suit Jésus sur le chemin, verset 52. Le chemin, c'est une expression qu'on retrouvera dans le livre des Actes et qui était utilisée par les tout premiers chrétiens pour parler de la foi en Christ. Là encore, c'est authentique, mais ça peut être en même temps symbolique. Les réponses de Dieu à nos prières sont parfois surprenantes. Et pour nous qui marchons avec le Seigneur depuis quelque temps, je suis sûr qu'on pourrait en témoigner tous. Il ne répond pas à certaines choses alors que nous nous attendons à une réponse. Et puis parfois, il répond à d'autres choses pour lesquelles on a à peine prié, auxquelles nous ne nous attendions pas toujours, à peine prié ou pas du tout. Mais la question est de savoir, devant les exaucements de Dieu que nous recevons, est-ce que je vais saisir cette réponse à la prière pour mieux suivre Jésus ? L'aveugle a retrouvé la vue, et l'usage qu'il fait de cette vue retrouvée, c'est de suivre Jésus sur le chemin. Un chemin qui, rappelons-le, quelques jours plus tard seulement, va conduire jusqu'à la croix. Là, si on lit ce texte hors contexte, on pourrait penser que voilà, cet homme aveugle va suivre Jésus pendant des mois, et voire des années, mais non, dans une semaine, Jésus sera crucifié. Mais à ce moment-là, cet aveugle le suit. Et c'est frappant parce qu'au cours des trois derniers chapitres, on a vu que les disciples ont du mal à voir clair sur qui est Jésus, à cerner vraiment qui est Jésus. Ici, Bartimée comprend que Jésus est le fils de David, verset 48. Il est son maître, verset 50. En fait, spirituellement, il voit déjà bien clair. Et Jésus, en quelque sorte, va aligner sa vue physique sur sa vue spirituelle. Je nous soumets une question pour conclure. Si nous avions Jésus face à face, littéralement, devant nous, ce sera le cas un jour, mais si ça arrivait aujourd'hui, ici, là, dans cette pièce, et qu'il nous demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Imaginons cela un instant. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que répondrions-nous ? Et pourrions-nous utiliser cet exaucement pour suivre ou mieux suivre Jésus ? Si Jésus est notre Seigneur, alors plus besoin de chercher un objectif à notre vie. Plus besoin. L'objectif nous est donné. Suivre Jésus, c'est ça le but de la vie. Le suivre non pas sur un chemin de développement personnel, mais sur le chemin de la croix. Le chemin de la soumission joyeuse à la volonté de Dieu. Même quand sur le moment elle fait mal. Même quand elle va à l'encontre de la pensée dominante autour de nous. Même quand elle nous attire l'humilité, voire l'opprobre, plutôt que la gloire et l'honneur. Le chemin du pardon, de la réconciliation, de la paix. Le chemin d'une vie qui ne cherche plus à prouver sa valeur parce qu'elle a tout trouvé en Jésus. Délivré pour devenir disciple. Voilà la vie qui nous est offerte et que nous devons saisir et ressaisir chaque jour. S'il y en a parmi nous ce matin qui ne sont pas encore disciples de Jésus, mais qui ont entendu ce matin l'appel de sa parole, non pas le mien, mais celui de Jésus lui-même, par sa parole. Alors, je vous encourage à venir nous en parler, à Paul, à moi-même, Paul Harrison également, qui est dans la salle du bas. Nous serions heureux de pouvoir en discuter avec vous, ou simplement peut-être avec un ami chrétien que vous connaissez dans cette église. Amen.